Chapitre 10. Un visiteur inattendu. Aurora trouva à la station de Doncastre un employé des plus polis, tout prêt à lui prendre son billet et à lui trouver une place confortable dans un wagon vide. Mais avant que le train partît, deux fermiers grossiers prirent place sur les coussins en face de Mistress Mellish. C'étaient d'opulentes gens qui cultivaient leurs propres terres et voyageaient par les trains express, mais ils apportaient une forte odeur d'écurie dans la voiture et ils avaient cet honnête accent nasillard du Nord qui est toujours agréable aux oreilles de l'auteur de cette histoire. Aurora, avec son voile baissé sur sa figure, attira peu leur attention. Ils parlaient marché et course de chevaux et regardaient à chaque instant par la portière et ensuite levaient les épaules quand ils voyaient autre chose que de l'agriculture. Je crois qu'ils connaissaient le rapport de chaque acre de terre entre Doncastre et Harrow et qu'ils savaient comment on aurait pu lui faire produire 10 shillings de plus par acre, comme ils se le disaient. Combien leur conversation devait paraître fatigante à cette pauvre créature isolée qui fuyait l'homme qu'elle aimait, l'homme qu'il aimait et l'aimerait jusqu'à la fin des siècles. « Je ne pensais pas ce que j'écrivais, se disait-elle. Mon pauvre mari ne m'en aimera pas moins. Son grand cœur est fait d'un amour qui n'est pas égoïste et d'un généreux dévouement. Mais il sera fâché, si fâché pour moi, si fâché. Il ne pourra plus être fier de moi, il ne pourra plus s'enorgueillir de moi. Il croira toujours ressentir une insulte ou s'imaginera un manque de respect. Ce serait trop pénible pour lui. Il verrait sa femme montrer du doigt comme la femme qui a épousé son groom. Il se trouverait mêlé dans 1000 querelles, dans 100 misères. Je veux lui rendre la seule chose que je puisse lui donner pour sa bonté pour moi. Je l'abandonnerai, je m'en irai me cacher pour toujours. » Elle essaya de s'imaginer ce que la vie de John serait sans la sienne. Elle essaya de penser à lui dans un temps à venir, lorsqu'il aurait laissé de côté ses chagrins et qu'il aurait oublié sa perte. Mais elle ne put pas. Elle ne peut supporter aucune image dans laquelle il était séparé de son amour pour elle. « Comment pourrais-je toujours penser à lui sans penser à l'amour qu'il a pour moi ?» se dit-elle. « Il m'a aimée depuis le premier moment qu'il m'a vue. Je ne l'ai jamais connu que comme amant, généreux, sincère et fidèle. » Dans cet état d'esprit, Aurora regardait les plus petites stations, qui ressemblaient à de simples bandes de bois lorsque l'express passa, quoique chacune d'elles fût une borne millière sur le long chemin qui la séparait de l'homme qu'elle aimait. Ah, femmes insouciantes, qui pensez que c'est une petite chose, peut-être, que vos maris soient honnêtes, généreux, constants et fidèles, et qui êtes prêtes à murmurer parce qu'une voiture s'est arrêtée à la porte de vos voisins, tandis que vous êtes obligés de vous contenter d'une promenade à 18 pence dans les véhicules pris à la station la plus proche. Arrêtez-vous et pensez à cette malheureuse femme qui, dans cette heure de désolation, se rappelle 1000 petits mots qu'elle a fait endurer à son mari et aurait voulu se mettre sous ses pieds pour expier ses petites tyrannies, ses petits caprices. Pensez à elle dans sa solitude, avec son cœur qui désire revenir vers l'homme qu'elle aimait et avec son amour qui se dresse contre elle et plaide pour lui. Elle changea d'idée 100 fois durant 4 heures de voyage. Quelquefois, elle pensait qu'elle devait revenir par le prochain train, puis, ensuite, elle se rappelait que son premier mouvement avait été peut-être, après tout, seulement trop vrai et que le cœur de John Mellish s'était tourné contre elle dans l'humiliation de sa découverte du matin. Avez-vous jamais essayé de vous imaginer la colère d'une personne qui ne s'est jamais mise en colère ? Avez-vous jamais évoqué l'image d'une figure qui vous a toujours regardé avec douceur et amour, et avez-vous mis sur cette physionomie habituelle la froide dureté de l'éloignement ? Aurora le fit. Elle se représenta maintes fois, dans son cerveau fatigué, la scène qui aurait pu avoir lieu entre elle et son époux. Elle se rappela cette banale pièce de théâtre dont tout le monde veut rire et dont on pleure en secret. Elle se souvint de Mistress Haller et de l'étranger, des enfants, de la comtesse, du cottage, des joyaux, des parchemins, et de toutes les vieilles et familières particularités du 5e acte si connu de ce drame si simple et si vrai, et elle se figurait John Mellish se retirant dans quelques pays éloignés avec son piqueur l'anglais et devenant un ermite misanthrope comme l'allemand trompé. Quelle sera sa vie désormais ? Elle fermait les yeux sur ce lugubre avenir. « Je retournerai chez mon père, » pensait-elle, « je retournerai vers lui, comme j'y suis déjà revenue une fois, mais cette fois-ci, il n'y aura point de tromperie, point d'équivoque, et cette fois-ci, rien ne me fera le quitter. » Parmi toutes ses perplexités, elle s'attacha à l'idée que Lucy et Talbot l'aideraient. Elle voulait implorer Talbot Bulstrode en faveur de John, qui avait le cœur brisé. « Talbot me dira ce qui est juste et honorable à faire, » pensa-t-elle. « Je ferai ce qu'il me dira. Il sera l'arbitre de ma vie future. » Je ne crois pas qu'Aurora ait jamais eu un amour très passionné pour le bel habitant des Cornouailles, mais il est certain qu'elle l'avait toujours respecté. Il se peut que l'amour qu'elle avait eu pour lui se fût changé en un grand respect et que sa considération pour son caractère fut rendue d'autant plus grande par le contraste qui existait entre lui et le vil séducteur auquel sa jeunesse avait été sacrifiée. Elle s'était soumise au décret qui l'avait séparée de son fiancé, car elle avait cru en sa justice, et elle était prête maintenant à se soumettre à la décision prononcée par cet homme, dont le sentiment d'honneur lui inspirait une confiance sans limite. Elle songea à plusieurs reprises à ces choses, pendant que les fermiers parlaient de brebis et de raves, du mélange de forlai, des semences et des haricots, du blé, du trèfle, et des mystérieuses maladies des bestiaux et du houblon, etc. Ils changèrent de conversation et parlèrent de courses, et même, au milieu de ces chagrins absorbants et de ces souffrances domestiques, Mistress Mellish lança un regard furieux sur ces innocents fermiers quand ils se moquèrent de l'écurie de John et démolirent la réputation de son homonyme, la jument B, et déclarèrent qu'aucun cheval sortant des écuries du Squire ne valait plus de 20 livres. Le voyage tira à sa fin seulement trop vite au gré d'Aurora. Trop vite, car chaque mile élargissait l'abîme qu'elle avait mis entre elle et la maison qu'elle aimait. Chaque moment amenait seulement la réalisation plus irrémédiable de la perte de sa maison dans son esprit. « Je suivrai le conseil de Talbot Bulstrode, » dit-elle en elle-même. Et, en vérité, cette pensée était le seul roseau auquel elle s'accrocha dans sa douleur. Elle n'était pas forte d'esprit. Elle avait une de ces natures généreuses et vives qui, naturellement, se portent vers les autres pour les aider et les consoler. La dissimulation n'entrait pas dans son organisation et la seule chose à cacher en sa vie avait été un perpétuel chagrin et une souffrance intense pour elle. Il était 8 heures passées quand elle se trouva seule parmi le bruit et la confusion du débarcadère de King's Cross. Elle envoya un commissionnaire chercher un cab et donna ordre au cocher de la conduire à Half Moon Street. Quelques jours seulement s'étaient écoulés depuis qu'elle avait rencontré Lucy et Talbot à Feldenwood, et elle savait que M. Bulstrode et sa femme étaient retenus à la ville, attendant la prorogation du Parlement. C'était un samedi soir, et par conséquent un jour de congé, pour le jeune défenseur des mineurs de Cornouailles et de leurs droits, mais Talbot employait ses loisirs parmi les Blue Books et les procès-verbaux du Parlement, et la pauvre Lucie, qui aurait pu briller comme une pâle étoile à quelques conversations et remplies de monde, était forcée de renoncer au plaisir de se démener sur l'escalier d'un de ces sages personnages qui persistent à inviter leurs connaissances à se serrer dans le plus petit espace donné, compatible pour la conservation de la vie et pour les obliger à marcher les uns et les autres sur les volants de dentelle et sur les bottes avec un calme souriant. Peut-être, dans l'universelle convenance des choses, ces soirées élégantes ont-elles un but sérieux, profondément caché sous une surface de frivolité. Il se peut que cela serve de gymnastique morale, dans laquelle les forces et les nerfs de l'aménité sociale sont soumises au supplice et à la torture en vue d'augmenter le pouvoir de les supporter. Il est bon pour un homme d'avoir un corps écrasé et cependant d'être forcé de sourire sous la souffrance, et une femme peut prendre sa première grande leçon de courage en voyant la perte d'une œuvre de Mechelin valant 50 guinées et en étant dans la nécessité absolue d'assurer le destructeur qu'elle est plus enchantée qu'autre chose par ce sacrifice. Noblesse oblige. Il est bon de souffrir et d'être fort. Du café froid et des glaces à moitié fondues ne sont pas la plus fortifiante et la plus délicieuse des nourritures, mais on doit à ces réunions sociales une diète morale qui n'est pas sans utilité. Lucie abandonnait volontiers ses propres plaisirs, car elle avait ce tact social qui n'appartient qu'aux femmes et qui avait fait partie de son éducation. Sa nature placide ne connaissait pas de tendances anormales. Elle aimait les amusements que les autres jeunes filles de sa position aimaient. Elle n'avait aucune de ces prédilections excentriques qui avaient été si fatales à sa cousine. Elle n'était pas comme cette charmante et illustre dame espagnole qui, disait-on, aimait mieux le cirque que l'opéra et qui appréciait davantage les sauts à travers les cercles couverts de papier que les fioritures d'un ténor ou d'un soprano. Donc elle abandonna, en se résignant, les plaisirs stéréotypés de la saison de Londres. Mais Dieu sait combien il est doux pour elle de faire ce sacrifice. Ses goûts étaient des agneaux gras qu'elle immolait volontiers sur l'autel de son idole. Elle n'était jamais plus heureuse que lorsque, assise à côté de son époux, elle faisait des extraits des Blue Books qui devaient être cités dans quelque écrit qu'il composait, si ce n'est lorsqu'elle était assise dans la tribune réservée aux dames, faisant un effort pour regarder à travers les grillages qui la cachaient aux regards errants des membres distraits, pour voir son mari à sa place sur les bancs du gouvernement et très souvent n'apercevant pas plus que le fond du chapeau de M. Bulstrode. Ce même soir, elle était assise auprès de Talbot, occupée à quelques jolis ouvrages d'aiguille et écoutant avec une attention patiente la lecture des feuilles d'épreuve du dernier pamphlet de son mari. C'était un noble spécimen d'un style imposant et vigoureux qui anéantissait quelqu'un complètement. Lucie ne savait pas exactement qui c'était et qui établissait quelque chose de la manière la plus incontestable, quoique Mistress Bulstrode ne pouvait comprendre exactement quoi. C'était assez pour elle qu'il eût écrit cette étonnante composition et que ce fût sa voix de baryton qui prononçât à haute voix cette harangue écrite dans le style de l'école de Johnson. S'il lui avait plu de lui lire du grec, elle aurait été contente de l'écouter. Il y avait de petits passages d'Homère que M. Bulstrode aimait à réciter de temps en temps à sa femme et que la petite hypocrite prétendait admirer. Aucun nuage n'avait obscurci le ciel serein de la vie de Lucie. Elle aimait et était aimée. C'était un côté de sa nature d'aimer dans une attitude respectueuse et elle n'avait aucun désir de s'approcher davantage de son idole. S'asseoir aux pieds de son sultan et lui remplir son chibouk, le veiller pendant qu'il dormait et agiter le punka sur sa tête de séraphin, l'aimer, l'admirer et prier pour lui étaient les plus grands désirs de son cœur. Il était près de 9 heures quand M. Bulstrode fut interrompu dans sa péroraison par un double coup frappé à la porte de la rue. Les maisons d'Halfmoon Street sont petites et Talbot jeta sa feuille d'épreuve avec un geste exprimant une grande irritation. Lucie regarda son seigneur et maître, moitié par sympathie, moitié par l'excuser. Elle se tint elle-même de manière à le mettre à son aise et à le réconforter. « Qui cela peut-il être » murmura-t-elle, « à cette heure ?» Un ennui ou un autre, j'en suis sûre, ma chère, répondit Talbot. Mais qui que ce soit, je ne recevrai pas ce soir. Je crois, Lucie, que je vous ai donné une assez jolie idée de l'effet de ceci sur mon honorable ami, le représentant de... Avant que M. Bulstrode pût dire le nom du bourg dont son honorable ami était le représentant, un domestique annonça que Mistress Mellish attendait en bas le maître de la maison. « Aurora !» s'écria Lucie, s'élançant de son siège et laissant tomber son ouvrage en désordre sur le plancher. « Aurora ! Cela ne peut pas être, Talbot ! Elle est revenue du Yorkshire il n'y a que quelques jours. »« Monsieur et Mistress Mellish sont tous les deux en bas, je suppose, » dit M. Bulstrode à son domestique. « Non, monsieur, Mistress Mellish est venue seule dans un cab depuis la gare, je crois. Mistress Mellish est dans la bibliothèque, monsieur. » Je l'ai priée de monter, mais elle a demandé à voir monsieur seul. « J'y vais de suite, » répondit Talbot. « Dites à Mistress Mellish que je suis à elle à l'instant. » La porte se ferma sur le domestique et Lucie courut dans sa hâte d'aller voir sa cousine. « Pauvre Aurora, » dit-elle, « il doit être arrivé quelque malheur, j'en suis sûre. Mon oncle Archibald est tombé malade, peut-être. Il n'avait pas l'air bien portant quand nous avons quitté Felden. » « Je vais vers elle, Talbot. Je suis sûre qu'elle aimera mieux me voir la première. »« Non, Lucie, non, » répondit M. Bulstrode, posant sa main sur la porte et se mettant entre elle et sa femme. « Je préfère que vous ne voyiez pas votre cousine avant que je l'ai vue. Il vaut mieux que je la voie le premier. » Sa figure devint sérieuse et ses manières presque graves en disant cela. Lucie s'éloigna de lui comme s'il l'avait blessé. Elle le comprit, vaguement il est vrai, mais elle comprit qu'il avait des doutes ou des soupçons sur sa cousine, et pour la première fois de sa vie, M. Bulstrode vit dans les yeux bleus de sa femme un regard de colère. « Pourquoi voulez-vous m'empêcher de voir Aurora ?» demanda Lucie. « C'est la meilleure personne du monde et je l'aime par-dessus tout. Pourquoi ne la verrai-je pas ?» Talbot Bulstrode regarda sa femme avec un grand étonnement. « Soyez raisonnable, ma chère Lucie, » répondit-il très doucement. « J'espère toujours pouvoir respecter votre cousine autant que je vous respecte. Mais si Mistress Mellish a quitté son mari dans le Yorkshire et est venue ici sans sa permission, car il ne lui aurait jamais permis de venir seule, elle doit m'expliquer pourquoi elle l'a fait avant que je consente à ce que ma femme la reçoive. » La belle tête de la pauvre Lucie se baissa à ce reproche. Elle se rappela sa dernière conversation avec sa cousine, cette conversation dans laquelle Aurora avait parlé d'un jour de douleurs éloignées qui pouvait la conduire pour demander une consolation et une protection à Half Moon Street. Ce jour de chagrin était-il déjà venu ? « Est-ce mal à Aurora d'être venue seule, Talbot ?» demanda Lucie doucement. « Si c'est mal, » répéta M. Bulstrode furieux, « serait-ce mal à vous de vous en aller seule d'ici dans le pays de Cornouailles, cher enfant ?» Il était irrité à la simple idée d'un tel outrage et il regarda Lucie comme s'il la soupçonnait à demi d'une telle intention. « Mais Aurora a pu avoir quelques raisons particulières, cher Talbot, » dit sa femme. « Je ne puis imaginer aucune raison assez puissante pour justifier un tel procédé, » répondit Talbot. « Mais je pourrai mieux juger cela quand j'aurai entendu ce que Mistress Mellish a à me dire. Restez ici, Lucie, jusqu'à ce que je vous fasse appeler. »« Oui, Talbot. » Elle obéit, soumise comme un enfant, mais elle se traîna vers la porte après que son mari l'eut fermée sur elle avec un douloureux désir dans le cœur. Elle désirait voir sa cousine et la consoler si elle avait besoin de consolation. Elle tremblait à l'idée de ce que devaient produire les manières froides de son mari sur l'impressionnable nature d'Aurora. M. Bulstrode descendit à la bibliothèque pour voir sa parente. Il eût été étrange qu'il ne se fût pas rappelé cette soirée de Noël dans laquelle il s'était rendu dans le petit salon de Felden avec l'espérance, dont son cœur battait, de demander une consolation à la femme qu'il aimait. Il eût été singulier que, dans le court intervalle qui s'était écoulé depuis qu'il avait quitté le salon et était entré dans la bibliothèque, son esprit ne se fût pas reporté en arrière à ce jour de désolation. S'il y eut une infidélité à Lucie dans le vif frémissement de douleur qui traversa son cœur lorsque revint ce vieux souvenir, le péché ne fut pas de plus longue durée que la peine qu'il amena. Il pouvait maintenant dire, dans la droiture de son cœur, « J'ai fait un choix sage et je ne me repentirai jamais de l'avoir fait. » La bibliothèque était une petite pièce située derrière la salle à manger. Elle était obscure car Aurora avait baissé la lampe. Elle ne désirait pas que Bulstrode vît sa figure. Ma chère Mistress Mellish, dit Talbot gravement, je suis si surpris de votre visite que je sais à peine comment vous dire que je suis bien aise de vous voir. Je crains que quelque malheur ne soit arrivé et vous force à voyager seul. John est malade, peut-être ? Il aurait pu en dire davantage si Aurora ne l'eût interrompu en se jetant à ses genoux et en le regardant avec un visage plein d'angoisse qui semblait presque horrible à cette vague lumière de la lampe. Il serait impossible de décrire l'horreur qui se répandit sur la figure de Talbot Bulstrode quand elle fit cela. C'était de nouveau la scène de Felden. Il venait à elle dans l'espoir qu'elle voudrait se justifier et, tacitement, elle reconnaissait son humiliation. Elle était donc coupable, c'était donc une créature criminelle qu'il aurait dû jeter dehors de sa chaste maison. C'était une misérable, une malheureuse perdue, souillée, qui ne devait pas être admise dans la sainte atmosphère de la maison d'un gentilhomme et d'un chrétien. « Mistress Mellish, Mistress Mellish, qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi me causez-vous encore une fois cette horrible souffrance ? Pourquoi persistez-vous à vous humilier, ainsi que moi, par une pareille scène ?» « Oh, Talbot, Talbot !» répondit Aurora. « Je suis venue vers vous parce que vous êtes bon et honorable.
Je suis une femme désolée, misérable, et j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos conseils. Je me réglerai d'après vos avis. Je le veux, Talbot Bulstrode. Ainsi, aidez-moi, au nom du ciel !»
Sa voix était brisée par ses sanglots. Dans sa douleur et sa confusion, elle oubliait qu'il était possible qu'un tel appel puisse n'avoir aucun effet sur Talbot. Mais peut-être, même au milieu de son étonnement, le jeune homme s'imagina voir quelque chose dans l'action d'Aurora qui n'avait rien de commun avec la faute, quelle qu'elle fût, dont il avait frémi de prime abord. Je crois qu'il dut en être ainsi, car sa voix et ses manières devinrent plus douces quand il s'adressa à elle. « Aurora, pour l'amour de Dieu, soyez calme. Pourquoi avez-vous quitté Mellish Park? Quelle est l'affaire dans laquelle je puisse vous aider de mes conseils? Dieu sait combien je désire être votre ami, car je suis un frère pour vous, vous le savez, ma chère enfant, et je réclame le droit qu'a un frère de vous questionner sur vos actions. Je suis fâché que vous soyez venu seul à Londres, car cette action peut vous compromettre. Mais si vous voulez être calme et me dire pourquoi vous êtes venu, je pourrai comprendre vos motifs. Allons, Aurora, essayez d'être calme. » Elle était encore à genoux et sanglotait. Talbot aurait bien appelé sa femme pour l'assister, mais il ne pouvait supporter l'idée de voir ces deux femmes réunies avant qu'il eût découvert la cause de l'agitation d'Aurora. Il versa de l'eau dans un verre et le lui donna. Il la plaça dans un fauteuil à côté d'une fenêtre ouverte et marcha dans la chambre jusqu'à ce qu'elle fût remise. « Talbot Bulstrode, dit-elle tranquillement après une longue pause, j'ai besoin de vous pour m'aider dans la crise suprême de ma vie. Je dois être sincère avec vous et vous dire ce dont j'aurais voulu plutôt mourir que de vous l'avoir dit il y a 2 ans. Vous rappelez-vous la soirée où vous avez quitté Felden ?
Si je me la rappelle, oh oui, oui.
Le secret qui nous séparait alors, Talbot, était l'unique secret de ma vie, le secret de ma désobéissance, le secret du chagrin de mon père. Vous me demandiez de vous faire un récit de cette année qui manquait à l'histoire de ma vie. Je ne le pouvais pas, Talbot, je ne le voulais pas. Mon orgueil se révoltait de nouveau contre cette horrible humiliation. Si vous aviez découvert vous-même ce secret et si vous m'aviez accusé de la triste vérité, je n'aurais pas essayé de nier. Mais prononcer de mes propres lèvres l'affreuse vérité, non, non, je ne pouvais pas supporter quelque chose d'aussi horrible que cela. Mais maintenant que mon secret est connu, qu'il est au pouvoir des gens de police et des garçons d'écurie, je puis tout vous dire. Quand je quittais la pension de la rue Saint-Dominique, je me sauvais pour me marier avec le groom de mon père.
Aurora !
Talbot Bulstrode se laissa tomber sur la chaise la plus proche de lui et s'assit, blême et frémissant, en regardant sa cousine. Était-ce là l'humiliation secrète qu'il avait fait se prosterner à ses pieds dans la chambre de Felden Woods ?
Oh, Talbot, comment aurais-je pu vous dire cela ? Comment puis-je vous dire maintenant pourquoi j'ai fait cette folie et cette mauvaise action ? Comment j'ai flétri le bonheur de ma jeunesse par ma propre faute et apporté la honte et le chagrin à mon père ? Je n'avais pas pour cet homme un amour romanesque qui m'accablait. Je ne peux pas mettre en avant l'excuse que quelques femmes ont pour leur folie. J'avais seulement une fantaisie sentimentale de jeune pensionnaire pour ses manières brillantes, seulement une admiration frivole de jeune pensionnaire pour sa belle figure. Je l'épousais parce qu'il avait des yeux bleu foncé et des cils noirs et des dents blanches et des cheveux bruns. Il s'était mis sur le pied d'une espèce de familiarité avec moi en me rapportant les commérages des courses, en faisant attention à mes chevaux favoris et en caressant mes caprices. Toutes ces choses amenèrent entre nous quelques rapports. Il m'accompagnait toujours quand je montais à cheval et il cherchait depuis longtemps à me raconter son histoire. « Bah ! Pourquoi vous ennuierais-je ? » dit Aurora douloureusement. « C'était un prince déguisé, naturellement. Il était le fils d'un gentilhomme. Son père avait eu des chevaux de chasse. Il avait été en guerre avec la fortune. On avait mal agi avec lui et il avait été écrasé dans la bataille de la vie. Sa parole donnait à tout cela un certain air et je le crus. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru ? J'avais vécu toute ma vie dans une atmosphère de vérité. » Ma gouvernante et moi, nous parlions continuellement de l'histoire romanesque du groom. C'était une sotte femme et elle encourageait ma folie, rien que par simple stupidité, je crois, et sans avoir le soupçon du mal qu'elle faisait. Nous faisions la revue de la figure du beau groom, de ses mains blanches, de ses manières aristocratiques. Je prenais son insolence pour une bonne éducation, que le ciel me vienne en aide. Et comme nous vivions dans ce temps sans voir presque aucune société, je comparais le groom de mon père avec les quelques hôtes qui venaient à Felden, et le misérable profita de la comparaison avec des gentilshommes de province. « Pourquoi essayerais-je de vous expliquer ma folie, Talbot Bulstrode ? Jamais je n'y arriverai, quand bien même je parlerai pendant une semaine entière. Je ne peux pas même me l'expliquer à moi-même. Je ne puis que regarder en arrière, revoir cet horrible temps et me demander de quoi j'étais folle. Ma pauvre Aurora ! Ma pauvre Aurora ! » Il parlait avec ce ton de pitié avec lequel il aurait consolé si elle avait été un enfant. Il pensait à elle, exposée, dans son ignorance enfantine, aux avances insidieuses d'un imposteur sans scrupules, et son cœur saigna pour la pauvre enfant privée de mère. Mon père trouva quelques lettres écrites par cet homme et découvrit que sa fille s'était fiancée à son groom. Il fit cette découverte pendant que j'étais sortie à cheval avec James Conyers, le nom du groom était Conyers, et quand je revins à la maison, une terrible scène eut lieu. Je fus assez folle pour défendre ma conduite et je reprochai à mon père son peu de libéralité dans les sentiments. J'allai plus loin, je lui rappelai que la maison Floyd et Floyd était d'une très humble origine. Il me mena à Paris le jour suivant. Je pensais qu'on me traitait cruellement. Je me révoltais contre la froide monotonie du couvent, je détestais les études qui étaient 10 fois plus difficiles que ce que j'avais fait avec ma gouvernante. Je souffris terriblement de la réclusion du couvent, car j'avais été habituée à courir en liberté dans les chemins des environs de Felden. Et avec tout cela, le groom me poursuivait avec des lettres et des messages, car il m'avait suivi à Paris et avait dépensé son argent avec insouciance pour gager les domestiques de la pension. Il jouait sur une grande échelle et il joua si désespérément qu'il gagna. Je me suis sauvée de la pension et me suis mariée à Dour, 8 ou 9 heures après mon évasion de la rue Saint-Dominique. » Elle cacha sa figure dans ses mains et demeura silencieuse quelque temps. « Que le ciel ait pitié de ma misérable ignorance » dit-elle à la fin. « L'illusion qui fit que j'épousais cet homme s'évanouit en une semaine environ. » Au bout de ce temps, je découvris que j'étais à la merci d'un misérable qui cherchait à se servir de moi le plus qu'il pouvait pour arracher de l'argent à mon père. Pendant quelque temps, je me soumis et mon père paya et paya chèrement pour la folie de sa fille. Mais il refusa de recevoir l'homme que j'avais épousé ou de me voir jusqu'à ce que je fusse séparée de lui. Il offrit au groom une rente à condition qu'il irait en Australie et cesserait tout rapport avec moi. Mais cet homme voulait jouer un jeu plus fort. Il désirait arriver à une réconciliation avec mon père et il pensait qu'avec le temps, la résolution de ce tendre père céderait par la force de son amour. Ce fut un peu plus d'un an après notre mariage que je fis une découverte qui me transforma en un moment de la jeune fille que j'étais en une femme pleine du désir de la vengeance, monsieur Bulstrode. Je découvris que j'avais été insultée, trompée, outragée par un misérable qui riait de mon ignorante confiance en lui. J'avais appris à haïr cet homme longtemps avant que cela n'arrivât. J'avais appris à mépriser ses mensonges éhontés, ses prétentions insolentes, mais je ne crois pas que j'aie senti ses profondes infamies plus vivement pour cela. Nous voyagions dans le sud de la France, mon mari faisant le grand seigneur avec l'argent de mon père, quand je fis cette découverte. Ou plutôt non, car elle me fut révélée par une femme qui savait mon histoire et me prenait en pitié. Une demi-heure après, j'agis en conséquence. J'écrivis à James Conyers, lui disant que j'avais découvert ce qui me donnait le droit d'en appeler à la loi pour me délivrer de lui, et que si je m'abstenais de le faire, c'était par amour pour mon père et non pas pour lui. Je lui dis qu'autant qu'il me laisserait tranquille et qu'il garderait mon secret, je lui ferais remettre de temps en temps de l'argent. Je lui dis que je le laissais avec les relations qu'il s'était choisies et que ma seule prière était que Dieu, dans sa grâce, puisse m'accorder de l'oublier complètement. Je laissai la lettre à la concierge et je quittai l'hôtel de manière à ce qu'il ne trouvât aucune trace du chemin que j'avais pris. Je m'arrêtai à Paris quelques jours, attendant une réponse à une lettre que j'avais écrite à mon père pour lui dire que James Conyers était mort. Peut-être fut-ce le plus grand péché de ma vie, Talbot. Je trompai mon père, mais je crus que je faisais une sage et bonne action en lui rendant le calme et le repos. Il n'aurait jamais été heureux aussi longtemps qu'il eût cru que cet homme vivait. « Vous comprenez tout maintenant, Talbot, » dit-elle tristement. « Vous vous rappelez le matin à Brighton ?»« Oui, oui, » et le journal, avec le passage marqué, l'annonce de la mort du jockey. « Ce rapport était faux, Talbot Bulstrode, » dit Aurora. « James Conyers n'était pas encore mort. » La figure de Talbot devint subitement pâle. Il commença à comprendre quelque chose de la nature du trouble qui avait amené Aurora à lui. « Quoi ? Il était encore vivant ? » dit-il anxieusement. « Oui, jusqu'à avant-hier soir. » « Mais où ? Où était-il pendant tout ce temps ?»« Pendant ces derniers jours, à Mellish Park. » Elle lui raconta la terrible histoire du meurtre. La mort de l'entraîneur n'avait pas encore été insérée dans les journaux de Londres. Elle lui dit cette horrible histoire et puis, le regardant avec une figure sérieuse, implorante, comme elle l'aurait fait s'il avait été son frère, elle le supplia de l'aider et de lui donner un conseil dans ce terrible moment. « Enseignez-moi ce qu'il y a à faire pour mon cher mari, » dit-elle. « Ne pensez ni à moi ni à mon bonheur, Talbot. Ne pensez qu'à lui. Je ferai tous les sacrifices, je me soumettrai à tout. Je désire expier envers mon pauvre mari tous les chagrins que je lui ai apportés. » Talbot Bulstrode ne fit aucune réponse à cet appel désespéré. Son esprit était à l'œuvre. Il était occupé à résumer les faits, à les mettre devant lui pour les combattre. Et il n'avait aucune peine à prendre pour cacher sa pensée ou son émotion. Il se promenait dans la chambre, les sourcils froncés et la tête baissée. « Combien de gens connaissent ce secret, Aurora ? » demanda-t-il. « Je ne puis vous le dire, mais je crains qu'il ne soit généralement connu, » répondit Mistress Mellish en frémissant au souvenir de l'insolence de l'idiot. « J'ai entendu parler d'une découverte faite par un des garçons d'écurie, un homme qui me hait, un homme que... avec lequel j'ai eu une altercation. N'avez-vous aucune idée de la personne qui a tiré sur ce Conyers ?
Non, pas la moindre.
Vous ne soupçonnez même pas quelqu'un ?
Non.
Talbot fit quelques tours de plus dans la petite chambre, dans un trouble évident et une grande perplexité d'esprit. Il quitta enfin la chambre et appela au pied de l'escalier. « Lucie, ma chère, venez voir votre cousine. » Je crains fort que Mistress Bulstrode ne se fût mise aux aguets quelque part près du salon, car elle vola au bas de l'escalier au son de la voix forte et fut aux côtés de son mari 2 ou 3 secondes après qu'il l'eût appelée.
« Oh, Talbot, » dit-elle, « que vous avez été long. Je pensais que vous ne m'appelleriez jamais. Qu'est-ce qui est arrivé à la pauvre chérie ?»«
Entrez et allez la consoler, ma chère, » dit Monsieur Bulstrode gravement. Elle a eu assez de chagrin, le ciel le sait, la pauvre enfant. Ne lui faites point de questions, Lucie, mais consolez-la aussi bien que vous le pourrez et donnez-lui la meilleure chambre que vous trouverez. Elle demeurera avec nous aussi longtemps qu'elle restera à Londres.
« Cher, cher Talbot, » murmura la jeune femme reconnaissante, « que vous êtes bon !»«
Allons, » dit M. Bulstrode, « elle a besoin d'amis, Lucie, et Dieu le sait, je veux agir en frère avec elle, fidèlement et bravement. Oui, bravement, » ajouta-t-il en relevant la tête avec un geste de défi, tandis qu'il montait lentement les escaliers. Quel était le sombre nuage qu'il voyait monter si fatalement au loin dans l'horizon ? Il n'osait pas penser à ce que c'était, il n'osait même pas reconnaître sa présence. Mais il y avait dans son cœur un sentiment de trouble et d'horreur qui lui disait que l'ombre était là. Lucie Bulstrode accourut dans la bibliothèque et, se jetant dans les bras de sa cousine, elle pleura avec elle. Elle ne demanda pas la nature du chagrin qui avait amené Aurora comme un hôte inattendu et non invité dans la modeste petite habitation. Elle savait seulement que sa cousine était dans le chagrin et que c'était un heureux privilège de l'abriter et de la consoler.
elle se serait battue dans une bataille terrible pour la défense de ce privilège. Mais elle adorait son mari pour la générosité avec laquelle il lui avait accordé sans combat. Pour la première fois de sa vie, la pauvre et douce Lucie prit une nouvelle position vis-à-vis de sa cousine. C'était à son tour de protéger Aurora, c'était à son tour de déployer une douce tendresse maternelle pour la créature désolée dont la tête souffrante reposait sur son sein. Les cloches du West End frappaient 3 heures dans le calme imposant de la nuit quand Mrs. Mellish tomba dans un assoupissement fiévreux, répétant sans cesse et toujours, même dans son sommeil,
« mon pauvre John, cher amour, que deviendra-t-il ? Mon seul chéri fidèle !»